Réno Days, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Immo, Bâti Radio et Radio Territoria.
Bienvenue sur nos antennes, nous sommes toujours en direct du forum Réno Days depuis Paris Expo, porte de Versailles, Hall 6. Si vous venez de nous voir, eh bien, vous nous trouverez là. Depuis hier et encore aujourd'hui, nous vivons ce grand rendez-vous consacré donc à la rénovation énergétique. Toutes nos émissions sont disponibles également en replay sur nos différents sites internet et applications. Le fil rouge de ce forum, c'est comment finalement massifier une rénovation énergétique d'ampleur en France. En tout cas, c'est la question que l'on pose à chacun de nos invités qui viennent nous voir ici. Arthur Braque de La Perrière, bonjour.
Bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil sur le forum Réno Days.
Eh bien, vous êtes le bienvenu, vous êtes le directeur général de Doremi, un acteur qui est reconnu sur le sujet de la rénovation globale performante. On a eu l'occasion de se croiser à plusieurs reprises d'ailleurs sur le Réno Tour, en amont donc de ce forum Réno Days. Peut-être une première question, même si elle paraît tout à fait évidente, Arthur, c'est quoi l'intérêt pour vous, pour Doremi, qui a un énorme stand ici, Hall 6, d'être présent justement sur Réno Days?
Ah, on a beaucoup d'intérêt à venir ici, à être présent. Le premier, je dirais, c'est la formation.
Okay.
On forme tous les acteurs de la rénovation énergétique. Pour réussir la massification de la rénovation énergétique et surtout pour la réussir de manière performante, il faut être capable de former et d'embarquer tous les acteurs, tous les maillons de la chaîne. Mais ça peut être la banque, l'agence IMO, évidemment l'artisan, formé jusqu'au geste sur chantier, les entreprises de travaux, les conseillers. Et donc, c'est tout ce panel de formation qu'on met en place chez Doremi. Et ici, à Réno Days, on rencontre tous les acteurs de la rénovation énergétique. Donc, sur la formation, ça permet d'être présent, de sensibiliser et d'embarquer du monde. Après, l'autre intérêt aussi, c'est que chez Doremi, on fait des travaux.
Ouais.
Et du coup, on rencontre ici des entreprises de travaux qu'on peut aussi former et emmener sur nos chantiers pour faire des travaux de réno performante.
Alors justement, on va en parler de la réno performante. Mais si on fait le point sur l'ensemble de vos activités... Donc il y a la partie formation.
Oui, on a plusieurs activités. J'ai avant tout Doremi, c'est une équipe d'une cinquantaine de personnes engagées, passionnées sur la rénovation énergétique et sur cinq régions de France. Mm-hmm. Alors nos métiers, on en a trois. Oui. Le premier, j'en ai parlé, c'est la formation. On veut former au maximum la filière. Si on veut réussir la rénovation à la fois, la massification et la performance, il faut qu'on forme le plus largement possible. Donc ça, c'est le métier historique. On a également la partie travaux. Les entreprises qu'on a formées sur les chantiers de rénovation, on les emmène pour faire des projets facteur 4. Quand on fait des projets Doremi, on cherche à diviser par 4 et même par 8 la consommation d'énergie des maisons. Ça demande de l'expertise, de la formation, de l'accompagnement. Donc ça, c'est la partie chantier, travaux, maîtrise d'œuvre qu'on réalise auprès des ménages. Et puis, une autre activité qui est très visible ici sur notre stand Réno Days, c'est ce qu'on appelle le lab. Mmh. C'est notre partie R&D. Comme on bénéficie à la fois de la formation et du retour d'expérience de chantier, qu'est-ce qu'on fait de cette matière, de cette information et qu'est-ce qu'on peut produire pour rester à la pointe et pionnier sur la rénovation énergétique? C'est pour ça qu'on a présenté ici, par exemple, nos premiers suivis conso. On a étudié, analysé nos 80 premiers chantiers. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'en suivi conso, on arrive à 37 kWh par an et par mètre carré sur nos premières réalisations, ce qui est au-delà même de ce qu'on voulait faire.
C'est deux fois mieux qu'après une rénovation classique, hein, c'est ça?
Ah oui, largement.
Ouais.
Largement. En fait, ça dépend à quoi on se compare, mais si on descend de la rénovation globale et performante, et si on compare avec ce qui se pratique de manière générale, avec des simples gestes qui sont malheureusement pas toujours coordonnés, on est très, très au-delà de l'objectif.
Oui. Mais c'est ça justement le débat. Pourquoi est-ce que vous êtes en opposition totale au monogeste?
Alors, je ne parlerai pas d'opposition totale. Et je suis bien placé pour en parler, parce qu'avant de rejoindre Doremi, j'étais artisan, plaquiste et
bah
façadier.
Oui.
Donc, je dois le dire, j'ai fait des monogestes. Chez Doremi, ce qui nous intéresse, c'est l'approche globale. Et on n'est pas toujours en mesure, chez des particuliers, de faire de la rénovation globale et performante. Ce serait génial si on pouvait faire à chaque fois nos silos de travaux et un facteur 4 direct. Dans la réalité, on voit qu'il y a des limites techniques, des limites budgétaires. Et donc, on doit faire les travaux par étapes. C'est assez fréquent et il faut qu'on s'organise de cette manière-là. Ce qui compte, ce n'est pas d'opposer monogeste et approche globale, c'est plutôt de se dire quel est le parcours le plus cohérent. Mmh. Si le ménage ne peut faire que deux ou trois lots de travaux, on va faire une conception qui permettra plus tard de réaliser les travaux. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais artisan, ça m'est arrivé plusieurs fois de refuser de faire des travaux chez des clients, même de refuser de faire un devis.
Pourquoi ?
Par exemple, il y a deux ans, je suis allé voir un ménage qui me disait « Je veux une isolation extérieure de ma maison. » Je vais chez eux, je leur dis, je veux bien vous faire un devis pour isolation extérieure de la maison, mais en fait, je crois que c'est impossible. Vous avez changé vos fenêtres il y a 10 ans. Votre menuisier qui a changé les fenêtres n'a pas prévu de retour de tableau avec des épaisseurs suffisantes pour pouvoir isoler. Les fenêtres sont posées en tunnel et pas à l'extérieur. Du coup, aujourd'hui, si je vous fais une isolation sur des fenêtres qui ont été mal posées ou en tout cas qui ont été posées sans considérer que plus tard, on pourrait faire l'isolation par extérieur, ça va être inefficace. Je vais vous vendre un projet à 30 000 euros et à la fin, c'est comme si vous aviez des fenêtres en simple vitrage. Donc la première étape, ça va être de refaire les fenêtres qui sont quasiment neuves, qui ont moins de 10 ans, ce qui évidemment le ménage n'était pas prêt à faire. Et donc, ce n'était pas tant un problème de monogeste qu'un problème de ne pas avoir de conception globale dès le départ. Mmh. Et je vais rajouter un autre point qui est essentiel, qui n'a jamais été considéré par celui qui avait posé les fenêtres et évidemment le ménage qui n'est pas forcément sachant sur sa rénovation, c'est que ce n'était même pas l'isolation par extérieur la première étape, c'était de se poser la question de la ventilation. Parce que là, j'allais achever de faire une maison complètement étanche entre les fenêtres et la façade et il n'y avait pas de système de ventilation adapté dans la maison, donc je risquais même d'apporter des pathologies. Donc voilà, ce qu'on oppose, c'est surtout la malfaçon au travail qui est pensé à l'avance dans un parcours cohérent. C'est beaucoup plus ça l'opposition qui est importante. Je dirais qu'on pourrait avancer avec quelques gestes de travaux si on ne peut pas faire autrement.
D'où l'importance, encore une fois, de former tous les professionnels aussi.
Exactement. S'il n'y a pas de formation, on court à la catastrophe, aux malfaçons, et puis même on va tuer le gisement. La manière de le dire, c'est qu'on va faire des travaux inefficaces. Les travaux qu'on fait coûtent très cher. Il faut être sûr qu'ils soient faits pour... de manière efficace, qu'on puisse les garder pour plusieurs années, voire même pour plusieurs générations surtout.
Alors vous le disiez tout à l'heure que les rénovations accompagnées par Doremi pouvaient atteindre en moyenne les 37 kWh par mètre carré par an de consommation énergétique finale. Comment est-ce que vous suivez quelque part dans le temps aussi la performance réelle des rénovations que vous faites ?
Alors c'était tout l'objet de cette étude suivi conso qui a été menée par notre équipe lab en interne. Ouais. C'était d'aller chercher les chantiers qu'on a réalisés il y a maintenant 3 ou 4 ans. On commence à avoir un retour d'expérience sur plusieurs années et d'accompagner les ménages pour suivre leur consommation, mais pas seulement, également de croiser avec les conditions météo et puis également le croiser avec l'usage de la maison. On a tendance à oublier l'usage, mais à la fin une rénovation réussie et performante, c'est aussi quand l'usage de la maison est cohérente. Et donc ce suivi conso a aussi été l'occasion de sensibiliser les ménages à utiliser le mieux possible les systèmes, l'entretien et ne serait-ce que le choix de température de la maison. Et c'est avec tous ces éléments-là qu'on a pu
mesurer
les 37 kWh par an.
Est-ce qu'on peut parler d'un chantier exemplaire, par exemple, qui vous vient en tête comme ça?
Ah oui, j'en ai un qui me vient en tête. Et d'ailleurs, un chantier exemplaire, pour moi, ce n'est pas un chantier qui s'est passé comme sur des roulettes. Mmh. C'est un chantier où on a eu des problèmes à gérer et on a réussi à les traiter pour atteindre un résultat vraiment intéressant.
Et puis, ça vous apporte de l'information pour les suivants, d'ailleurs.
Et en plus, c'est une montée en compétences des équipes, puisqu'à chaque fois qu'on se plante, si on est capable de le mesurer, de le voir et de le corriger, c'est toute une équipe qui monte en compétences. Mmh. L'exemple que j'ai en tête, c'est une maison qu'on a fait en banlieue lyonnaise, une maison en mâche fer, donc un matériau assez particulier. Ouais. On ne peut pas le travailler comme on veut, donc on a fait un choix d'isolation par l'extérieur avec une laine de bois et une ossature bois en extérieur pour garder le caractère, la perspirance du mur de la maison et puis garder l'inertie de la maison. On a fait une partie de l'isolation en comble perdu, une partie en comble rampant, changer toutes les fenêtres, mettre en place une ventilation double flux. Comme il n'y avait pas de vide sanitaire, on a décidé de décaisser tout autour de la maison pour faire filer l'isolant en façade à 50 cm en dessous du niveau de la dalle pour assurer en fait que tous les lots soient bien traités, y compris le plancher qu'on ne pouvait pas isoler, le faire rentrer dans l'espace chauffé. Ça a été un chantier assez complexe. Et je pense souvent à ce chantier-là parce que sur les chantiers d'Orémy, avant de tout refermer, le placo, l'extérieur, on fait un test d'étanchéité à l'air pour s'assurer que ce qu'on promet aux clients en termes d'étanchéité, on se donne des chances de le respecter le plus possible. Et là, on a fait un test qui était particulièrement mauvais. Je pense que c'est un des records de plus mauvais tests. Donc, on a fait une réunion de crise sur le chantier, ramené tous les artisans. Je pense que chacun en a pris pour son grade de un geste qui avait été oublié ou quelque chose qui n'avait pas été pensé au départ. On a passé un peu de temps, mais je pense que c'était un temps bien investi. Chacun a pu corriger à son niveau ce qu'il pouvait faire. Alors, moi, qui étais à l'époque l'entreprise de plaquiste, notre raccord entre isolation sous rampant et le débordement de toiture avec des forgets a été négligé par l'équipe. C'est en fait qu'on ne pouvait pas le voir et qu'on avait un espèce de parement qu'on pensait étanche mais qui ne l'était pas et qui laissait rentrer l'air dans la maison. Donc c'est comme si on avait mis une Gore-Tex très performante, une veste Gore-Tex avec des trous dedans.
Ouais. Donc inefficace.
Bon, ça nous a pris quelques jours de boulot pour récupérer, mais intérêt de ce chantier-là qui s'est fait, on va dire, dans l'apprentissage, le test suivant qu'on a refait était performant. Et l'année suivante, la cliente nous a envoyé sa facture d'énergie divisée par 4.
Le test and learn, là, ça fonctionne bien. Là.
Exactement.
Vous disiez tout à l'heure que ce qui était important, c'était de former la filière. Comment faire en sorte que cette approche artisan formé, groupement local aussi, soit déployée quelque part sur tout le territoire ? Parce que c'est ça aussi l'objectif. Pour ensuite pouvoir massifier d'ailleurs.
Il faut donner envie aux artisans de se former au-delà de leur métier.
En fait, sont pris à plein temps en plus dans le cadre de leur activité. Donc il faut trouver en plus du temps pour se former.
Et j'ajouterais qu'ils connaissent déjà très bien leur métier. Et les entreprises de travaux, les artisans qu'on rencontre, connaissent déjà très bien leur métier. Donc on ne va pas les former sur leur métier. Tout l'enjeu, c'est de faire prendre conscience qu'au-delà du métier, de chacun son geste professionnel, il y a un enjeu qui est commun, qui est transversal, qui est celui de l'approche globale. Ce qui veut dire gestion de la migration de vapeur d'eau, gestion de la ventilation, des interfaces, de l'étanchéité à l'air. Et ça, c'est le travail de tous les artisans du chantier. C'est là-dessus que Dorémy insiste fortement dans ses formations. Et je dirais que pour sensibiliser, c'est déjà donner envie aux artisans de se former sur cette approche globale. Moi, je parle souvent du chantier du siècle parce que c'est un chantier d'avenir. On doit changer les pratiques. On ne peut pas répondre aux enjeux climatiques et aux enjeux d'énergie qu'on a aujourd'hui sans se poser la question de se mobiliser sur toute la filière. Donc c'est ce qu'on cherche à apporter. Et puis, le point important, je pense, qui fait prendre conscience, c'est aussi de faire ces tests d'étanchéité à l'air, de suivre les chantiers et de les contrôler pour faire monter en compétences.
Les freins majeurs aujourd'hui qui ralentissent la rénovation globale performante, c'est quoi pour vous ?
Bon, on a un frein majeur, je pense, qui est ici, dans toutes les bouches sur Renoday, c'est le stop and go du gouvernement. Ouais. Je ne parlerai même pas du frein sur les aides. L'enjeu, c'est aujourd'hui la stabilité.
Parce que le stop and go sur les aides aussi, il est pas mal non plus.
Oui,
avec Brenov notamment.
Le frein, c'est le stop and go parce que ça freine les ménages à avoir une vision stable dans leurs projets et puis les professionnels à s'organiser. À la limite, il faudrait mieux avoir un peu moins d'aide, mais pendant 10 ans, que d'avoir des montagnes d'aide qui s'arrêtent brutalement au bout de 6 mois. Ça rend la filière instable. Donc, en fait, le premier frein, c'est l'instabilité. On a besoin d'être dans un univers assez stable pour pouvoir dérouler nos stratégies. Et je pense que c'est un message qui est partagé ici par tous les acteurs.
C'est clair. Est-ce que justement cette instabilité a des répercussions sur votre activité aussi ?
Mais énorme. C'est des répercussions. C'est-à-dire qu'il y a encore 6 mois, on était en recrutement et en développement. Aujourd'hui, on a un coup de frein, donc on doit s'organiser différemment, même revoir nos offres. Et quand on passe toute cette énergie à revoir des offres et organiser l'entreprise, on n'est pas en train d'organiser nos chantiers de l'année prochaine. On pourrait mettre notre énergie de manière beaucoup plus efficace que de revoir nos politiques d'offres tous les 6 mois. J'espère que c'est un message qui va rentrer, alors j'allais dire, dans la tête des politiques et du gouvernement, encore faut-il qu'il soit là.
Oui.
Mais en tout cas, c'est tellement partagé par la filière aujourd'hui, j'espère que ça va être vrai dans les prochaines années.
Ce qui est intéressant, c'est qu'avant que ne débute l'émission, vous m'avez dit 2-3 mots et vous m'avez expliqué que bon, c'est vrai qu'il y a un marasme là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que c'est compliqué pour la filière, mais qu'en même temps, quand vous voyez le monde ici défiler, venir vous voir, bah ça rebooste quelque part et ça redonne le moral.
Ouais, c'est génial. C'est vrai que ça fait 3-4 mois qu'on accumule les mauvaises nouvelles sur le secteur et là, ce salon Renaudais, on voit tout l'écosystème qui est réuni. Les acteurs sont les mêmes depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est des acteurs qui sont engagés, qui sont passionnés. Et quel que soit le climat des affaires, on voit qu'il y a une énergie encore dingue sur le projet. Ce qui veut dire ici à tous les acteurs qu'on ne s'est pas trompé de mission. Et aujourd'hui, l'enjeu de la réno énergétique qui nous rassemble est sûrement un enjeu porteur pour des nombreuses années. Quand je vois comme la filière se mobilise, c'est hyper rassurant pour la suite.
Bon, je vais faire de la politique fiction, mais imaginons qu'on ait un gouvernement qui soit à peu près stable, avec un ministre du logement qui soit à peu près stable. Qu'est-ce que vous lui dites ?
Alors, première chose, la stabilité, clairement. Limite, il faut qu'ils s'entendent avec leurs oppositions, mais qu'on arrête de changer tous les 6 mois. Ça, c'est vraiment le point clé de la réussite. On a besoin de planification pour que l'évolution du secteur soit efficace.
Et que les projets reprennent.
On ne peut pas réinventer tous les 6 mois. Il faut de la stabilité. Les ménages, pour prendre des décisions, ont besoin de se dire qu'ils sont dans un environnement stable. Sinon, il n'y a pas de décision prise et on bloque la filière. Ça, c'est l'élément principal. Après, le deuxième, évidemment, on a envie qu'il y ait des aides qui soient importantes, mais surtout qu'ils soient le plus performants possible. Et là, je vais parler plutôt pour Dorémy, des aides qui poussent la rénovation globale sont pour moi des aides qui sont orientées vers la performance et vers la formation de la filière. Donc des aides qui poussent la filière à tirer vers le haut. Et là, déjà, si on a réussi ces deux points-là, je pense qu'on peut aller, on peut aller assez loin pour faire ce grand chantier.
Allez, ultime question. Quels objectifs de Rémy se fixent à l'horizon 2030 en termes de volume de logements rénovés et d'impact carbone ?
Alors, logements rénovés, là, cette année, on va en faire plus de 100. On est quand même en légère hausse, même si on aurait voulu doubler cette année. On va se contenter d'une petite hausse du nombre de maisons individuelles rénovées. En 2030, je veux absolument qu'on dépasse la barre des 500 logements rénovés. Ouais. Après, ce n'est pas le seul objectif. Nous, notre but, c'est de massifier la réno énergétique. Mmh. Donc, on va faire notre part avec nos propres chantiers. Si on arrive à en faire 500, c'est déjà très bien. Par contre, l'enjeu, c'est plutôt 500 000. Donc après, l'autre indicateur qu'on va suivre, c'est la formation. Et là, on a besoin de continuer de former et d'influer le plus positivement possible sur la filière. C'est un autre indicateur qu'on veut suivre, former un max de monde.
Un grand merci Arthur.
Merci à vous.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on va se retrouver avec une prochaine émission, toujours ici en direct du Parc des Expositions, Porte de Versailles, Hall 6, pour continuer à vous faire suivre cette deuxième journée du Forum Reno Days, à retrouver également en intégralité sur l'ensemble de nos plateformes. Merci et à tout de suite.
Reno Days, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Immo, Bâti Radio et Radio Territoria.